Eh bien, nous avons rendez-vous ce soir avec le premier livre des rois. Au chapitre 17, nous en lisons les sept premiers versets. 1 Roi 17, versets 1 à 7. Où Dieu nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit tes filles selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et nous allons vers l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, dont nous lisons les six premiers versets. Les six premiers versets qui traitent du caractère absolument unique du ministère du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez, observez attentivement, examinez de près l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, le terme est particulier ici, grand serviteur, comme les serviteurs de l'État, n'est-ce pas ? Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous avons jusqu'à présent considéré trois des cinq leçons du torrent de Kérit. Et de manière à pouvoir, durant les deux dernières études d'après-demain, nous arrêter suffisamment longuement sur torrent d'hier et d'aujourd'hui, faire une transposition, nous allons ce soir successivement nous pencher sur les deux dernières leçons de ce torrent. Vivre dans le temps de Dieu, vivre dans le lieu de Dieu, vivre dans le silence de Dieu, c'était ce matin. Et puis, eh bien, regardons. Regardons le prophète Élie, lorsqu'il s'enfonce dans cette tranchée du torrent de Kérit, et qu'il se retrouve donc dans la cachette de Dieu, bénéficiant de cette eau du torrent. Je l'imagine au tout début, lorsque pour la première fois il vient au bord du torrent pour se désaltérer. Et je le vois en bon juif, dans la tradition, dans le geste de la reconnaissance, qui jette un coup d'œil sur le torrent et qui lève les yeux vers le ciel, qui lève les mains bien haut, qui dit « Seigneur, je te loue pour ta fidélité. Je te remercie pour ce beau cadeau du torrent. » Et puis, il va faire un bon dodo dans son hôtel, 3 étoiles nouvelle norme. Et le lendemain matin, il vient avec son nécessaire de toilette. Il regarde le torrent et lui dit « Seigneur, je te loue pour ce beau cadeau, ce torrent. » Et puis, le lendemain, quand il revient, et qu'il pose son nécessaire de toilette, qu'il se met torse nu, « Je te loue pour ce beau torrent. » Et puis une semaine après, il a les mains dans les poches. « Je te loue. » C'est bien, mais enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. C'est ainsi que j'aurais fait. À savoir que peu à peu, se serait produit dans mon cœur un changement de centre de gravité. Mon regard intérieur serait progressivement passé de Dieu, le généreux donateur, vers le torrent, précieux don de l'Éternel. C'est fou ce que vous et moi, nous nous habituons aux bontés du Seigneur, au point de ne plus les voir, ou encore de finir à quelque part par nous attribuer à nous-mêmes des mérites au contact de ces bénédictions. Voilà pourquoi ce soir nous évoquons l'épreuve du regard et la nécessité d'apprendre à vivre le regard sur Dieu. Vivre le regard sur Dieu. Dieu assèche les torrents qui accaparent notre regard pour que nous fixions de nouveau nos regards sur lui et que nous dépendions de lui seul. Le Dieu fidèle travaille sur notre regard. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, dit l'apôtre Paul. Et Élie a dû le constater. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous sommes toujours pleins de confiance. Pourquoi ? Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 4, 18 et 5, versets 6 et 7. Nous avons évoqué celui que nous appelions le prototype des croyants, le père, entre guillemets, de ceux qui marchent par la foi, selon la parole de Paul dans l'Épître aux Romains. Et à cet égard, Abraham et sa chère épouse, Sarah, ont beaucoup à nous enseigner dans ce domaine du regard de la foi. Romains chapitre 4, nous dit ceci à partir du verset 17. Verset 17, Romains 4, 17. Abraham est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant, contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, ou, précisons-le, il considéra. Pendant longtemps, nos versions avaient choisi ce qu'on appelle en langage technique de traduction une leçon appartenant à certains manuscrits qui parlait donc de manière négative. Il ne considéra point. Puis vous savez que ce domaine des manuscrits a beaucoup évolué, en particulier, entre autres, depuis la découverte des manuscrits de la Mer Morte, Qumran. Bref, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre possibilité de traduction qui consistait à rendre de manière positive ce verbe qui est utilisé ici de manière négative. Le résultat est exactement le même, comme nous allons le voir. Mais je précise que nous ne devons pas être troublés si dans certaines versions plus anciennes, nous avons « il ne considéra point » et si dans certaines versions actuelles, nous avons « il considéra ». Tout simplement parce qu'il y a des manuscrits qui le disent de manière négative, d'autres qui le disent de manière positive, mais en réalité, quand on creuse un peu le texte et son contexte, aucun problème, qu'on ait fait du grec ou que l'on n'en ait pas fait, que l'on connaisse les manuscrits ou qu'on ne les connaisse pas, on va bien interpréter comme nous allons le voir. Donc, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, oui, il considéra, que son corps était déjà usé, littéralement presque mort, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Littéralement, si je traduis, l'état de mort du sein de Sarah. Alors, pour que ce soit un peu plus élégant, sans être infidèle au sens du texte, on a rendu dans un langage un peu plus approprié. Mais voilà exactement ce que cela veut dire. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, et c'est pourquoi cela fut mis sur son compte à justice. Oh, c'est un beau texte. C'est un beau texte. Comme en écho, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, qui accorde une place privilégiée, beaucoup plus importante que celle de tous les autres portraits de ce qu'on appelle les héros de la foi, à Abraham et à Sarah, Hébreux 11, versets 11 et 12, souligne « Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Alors, là aussi, essayons de nous mettre dans la peau des personnages. Vous imaginez ce vieillard, Abraham, donc presque mort, nous dit le texte, son torrent est vraiment presque à sec, on peut considérer même qu'il est à sec, et qui donc un jour entre dans la chambre à coucher conjugale, dans laquelle il y a une magnifique armoire avec deux grands miroirs, et il se met dans son vêtement le plus économique devant le miroir et il se regarde. Et il se regarde de manière très attentive, puisque le verbe utilisé ici au verset 19, nous l'avons déjà vu dans le passé, considéré. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux au chapitre 3, considérer Jésus, n'est-ce pas? C'est donc un verbe dont je vous avais expliqué qu'il était utilisé autrefois par les astronomes qui s'efforçaient de percer le secret des astres. C'est un regard très attentif, scrutateur, examinateur et systématique dans son observation. Il y a un petit préfixe qui dit que c'est un regard qui, en quelque sorte, balaye la personne du haut vers le bas. Comme quand on vous dévisage, n'est-ce pas, et que vous êtes tout gêné de vous sentir déshabillé dans l'âme par quelqu'un qui vous regarde de très près. Alors, imaginez notre ami Abraham, peut-être même avec sa paire de lunettes sur le nez, hein, qui commence à se regarder du haut en bas. Et puis au bout d'un moment, dans sa vaste barbe, il explose d'un fou rire phénoménal en pensant à la promesse de Dieu. De toi sortira une postérité innombrable, comme les étoiles du ciel et le sable qui est au bord de la mer. Vous vous rendez compte? Et puis au bout d'un moment, après s'être examiné, avoir vécu sa cure de jouvence, de fou rire, il appelle sa chérie. « Sarah, chérie, tu peux me rejoindre un instant ?» Et j'imagine cette chère Sarah, qui devait être une femme de tête, mais remarquable quand on lit son histoire, qui le rejoint dans la chambre, toute surprise de le voir devant un miroir, dans ce vêtement économique, et lui dit « Chérie, regarde-moi !» Et puis, une fois qu'elle l'a bien regardé, en se demandant s'il n'a pas pris un coup de soleil, il lui dit « Chérie, maintenant permets que moi je te regarde !» Et il la regarde, il l'examine du haut en bas. Il se dit « Mais c'est pas possible, mon petit mari, il est devenu fou !» C'est l'âge. Et puis subitement, il éclate d'un second fou rire aussi fort que le premier. Et il ne considéra point. C'est-à-dire, après avoir regardé, après avoir évalué, après avoir finalement tiré une conclusion, c'est foutu. Pas question que nous ayons ensemble, dans une relation conjugale normale, pas question que nous ayons un enfant. À vue humaine. Ma petite épouse, elle est une ruine. C'est ce qu'elle dira elle-même dans Genèse 18. Elle va rire l'année précédant la naissance de l'enfant, la 24e année, en entendant la conversation de Genèse 18 entre les envoyés de l'Éternel, n'est-ce pas? Elle écoute aux portes et elle se met à rire parce qu'elle dit « Mais moi, je suis une ruine. » Mais, après avoir considéré, tous les deux ont regardé vers le Seigneur, ont regardé vers la promesse. Ils ont refusé d'attacher leur regard à l'éphémère. Ils ont refusé de garder les yeux fixés sur le torrent de leur propre vie qui était desséché, marqué par la mort. Et c'est ainsi qu'ils ont honoré Dieu, parce qu'ils ont marché par la foi et non par la vue. Et c'est à cause de cela qu'ils ont été déclarés justes, acquittés, innocenté, vu juste placé au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ qui allait intervenir quelques 2000 ans plus tard. Je pense à ce que mon épouse et moi nous avons vécu durant 3 années entre 1987 à peu près et 1990. Des années extrêmement difficiles où nous avons eu le sentiment que sur toute la ligne, tout devenait opaque, que notre torrent se vidait progressivement, que toutes nos équations, nos belles équations spirituelles, solidement fondées doctrinalement parlant depuis des décennies, volaient en éclats. Et je me souviens des nombreuses larmes versées lorsque je disais: Seigneur, je n'y comprends plus rien. Je ne vois plus du tout clair. Je suis en train de perdre mes certitudes. Tu fais voler en éclats toutes mes équations et je me demande même ce que je peux encore enseigner dans le ministère que tu m'as confié. Et je me souviendrai toute ma vie de ce matin où je suis allé à la boîte postale de notre village près d'Orléans pour chercher notre courrier. Et j'ai ouvert une enveloppe dont le contenu était expédié par quelqu'un qui ne connaissait rien de notre situation. Et le contenu, c'était cette carte ici. N'essayez pas de lire pour vous qui êtes loin, je vais vous y aider. Mon père, je ne te comprends pas, mais je me confie en toi. J'ai placé cette carte dans mon bureau, sur mon bureau. Et j'y ai vu une invitation de ce père que je ne comprenais pas à continuer à regarder à lui. Et pendant quelques jours, chaque matin, je voyais cette carte jusqu'à ce que, apprenant qu'un ami était en grave difficulté, j'ai à cœur de mettre cette carte sous enveloppe pour la lui expédier, pensant que dans sa situation particulièrement difficile, ce message pourrait lui être utile. Dans les jours qui ont suivi, je partais pour l'Est de la France pour une série de conférences bibliques. Et à l'issue d'une des soirées de conférences, une très vieille sœur en Christ, qui est maintenant auprès du Seigneur, en me saluant, me glissa une enveloppe dans la main. Je la glissai dans mon sac, et une fois arrivé chez les amis qui m'accueillaient, je pris connaissance du contenu de l'enveloppe. C'était la même carte. Et je compris que j'avais vraiment, d'une manière toute spéciale, encore besoin de ce message. Et donc, en rentrant à la maison, en entrant dans mon bureau, je remis cette carte sous mon nez. Et effectivement, je ne tardais pas à me rendre compte que la tempête continuait et faisait rage plus que jamais. Et que Dieu me répétait toujours ce même message. Et puis, cette carte partit à son tour. Et une fois qu'elle partit, la poste m'envoya une autre lettre de la part d'amis qui ne connaissaient rien de ma situation. Et quand j'ouvris l'enveloppe, il y avait pour la troisième fois la même carte. Et cela m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je vous dis un petit secret maintenant. Tout le cours que nous vivons depuis vendredi dernier, il a été le fruit de ces 3 années. 3 années de larmes, 3 années de souffrance, 3 années de tunnel, au bout desquelles Dieu a dit, eh bien maintenant, Maurice, tu peux prendre la plume et écrire un livre. Et donc il y a un livre, mais il ne vous sera pas proposé, sinon peut-être pour que vous puissiez mettre vos noms sur une liste, comme pour le premier, puisque ce livre est épuisé, lui aussi, et qu'il est fortement demandé, donc nous espérons là aussi qu'il sera bientôt réédité, mais je vous le présenterai quand même. Il s'intitule « Fidèle, quoi qu'il en coûte ». Et ce sont donc les 5 leçons du torrent de Kérit. Mais ce livre a été écrit dans le prolongement de ces 3 années extrêmement douloureuses, où Dieu nous a appris de manière beaucoup plus intense et profonde à regarder à lui et à cesser de garder nos regards fixés sur certains torrents dont nous parlerons après-demain. Je pense ici à une veuve chrétienne en Écosse qui enseignait à ses enfants à se confier en Dieu. Et un jour, bourse et garde-manger furent vides. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine dans le baril. Et elle se pencha pour gratter le reste de la farine et faire du pain pour ses enfants. Et alors qu'elle était penchée sur le baril et qu'elle en regardait, qu'elle en scrutait le fond, sa foi se mit à vaciller, elle se mit à pleurer. Et son petit garçon, qui l'entendit pleurer, vint vers elle, et ce petit bout de chou de lui tirer sur le pan de sa robe avec beaucoup d'insistance. Elle finit par relever la tête, elle regarde son enfant d'un air interrogateur. Et ce petit garçon de lui dire, mais pourquoi pleures-tu? Dieu n'a-t-il pas entendu gratter le fond du baril? Et en un instant, sa foi défaillante fut renouvelée. Oh oui, Dieu avait entendu. Tout le reste avait peut-être disparu, mais Dieu était toujours là. Et sa parole déclarait que tous ses besoins seraient comblés. Vous vous souvenez d'Arthur Matthews et de Vilda, son épouse, et de leur petite fille Lila, en Chine, très haut dans la montagne, dans cette province du Kansu, ces 2 derniers missionnaires de la mission à l'intérieur de la Chine. Nous les avons évoqués ce matin, n'est-ce pas? Eh bien, Arthur Matthews, au plus fort de la tempête, alors que les difficultés financières s'amassaient, que la maladie était là, que les tracasseries se multipliaient de la part des autorités locales en place, Arthur Matthews écrivit cette poésie. Vous la retrouverez, ne vous précipitez pas, dans un livre qui est depuis longtemps épuisé. Je regrette beaucoup qu'il ne soit pas réédité. Il est dans la bibliothèque, verdoyant malgré la sécheresse. Isobel Kuhn, un des plus beaux livres d'histoire missionnaire. Et Arthur Matthews, d'écrire cette poésie sur l'Adriatique en furie, flotte, à la tempête asservie, ma barque au mât démantelé. Son dernier jour semble arriver, elle craque et gémit. Qu'importe, je m'écris, même dans ce désastre, en Dieu je me confie. Toute espérance est perdue, nul rayon ne perce la nuit. Enveloppé de désespoir, je me sens sombrer dans le noir, cependant que mon cœur défaille à l'avenir, même dans ce désastre, en Dieu je me confie. Je n'ai plus d'eau dans ma rivière. Dieu semble sourd à ma prière. Mes ruisseaux sont secs à jamais. Mais tout tremblant, je me soumets. Satan peut s'acharner pour m'enlever la vie. Même dans ce désastre, en Dieu, je me confie. Je n'ai plus d'huile, de farine. Et le tentateur imagine ce doute affreux. Dieu pourrait-il au désert remplir ton baril ? Éloignez-vous, mensonge, infamie. Même dans ce désastre, en Dieu, je me confie. Un prédicateur baptiste du XIXe siècle, Richard Fuller, aimait citer un vieux marin qui avait l'habitude de dire dans les grosses tempêtes, « Nous devons placer le bateau dans une certaine position et l'y maintenir. » Puis il commentait, « Cela, chrétien, c'est exactement ce que vous devez faire. La raison ne peut vous aider. Les expériences passées n'apportent point de lumière. Il n'y a qu'une solution. Vous devez vous accrocher au Seigneur et advienne que pourra vent, vague, marée contraire, tonnerre, éclair, rocher, brisant. Quoi qu'il arrive, vous devez demeurer ferme dans votre confiance en la fidélité de Dieu et en son amour éternel manifesté en Jésus-Christ. » Nous avons évoqué Georges Müller, ce père de plus de 10 000 orphelins, n'est-ce pas, à Bristol. Un évangéliste de cette époque a raconté une histoire vécue par lui alors qu'il se rendait depuis l'Angleterre en Amérique pour la première fois. Il raconta ceci, cet évangéliste. « Je me trouvais donc sur un navire dont le navire était un chrétien très fidèle. Lorsque nous eûmes passé Terre-Neuve, ce capitaine me dit, « Monsieur Inglis, la dernière fois que je naviguais ici, il y a 5 semaines, il se passa une chose tout à fait extraordinaire qui révolutionna toute ma vie de chrétien. Jusqu'alors, j'avais été un chrétien quelconque. Nous avions un homme de Dieu à bord, Georges Müller, de Bristol. Je m'étais tenu sur le pont pendant les dernières 24 heures sans le quitter, lorsque je sentis quelqu'un me taper sur l'épaule. C'était Georges Müller. « Capitaine, dit-il, je dois être à Québec dimanche après-midi. » C'était mercredi.
« Impossible, répondis-je. Très bien. Si votre navire ne peut me transporter, Dieu trouvera un moyen de locomotion pour m'y amener. »
En 57 ans, je n'ai jamais manqué un engagement.
Enfin, je vous aiderai bien volontiers, mais comment le pourrais-je? Je suis impuissant.
Eh bien, descendons dans votre cabine et prions. Je regardais cet homme tout en me demandant à moi-même de quelle maison de santé avait pu s'échapper ce déséquilibré. « Monsieur Müller, vous rendez-vous compte de la densité du brouillard ?»«
Non.
Mes yeux ne sont pas sur la densité du brouillard, mais sur le Dieu vivant qui contrôle toutes les circonstances de ma vie. » Puis il se mit à genoux et il prononça une prière des plus simples. Je me disais, oh, voilà qui conviendrait à une classe d'enfants de 8 à 9 ans. Cette prière disait à peu près ceci, ô Seigneur, si telle est ta volonté, dissipe, je te prie, ce brouillard en 5 minutes. Tu connais l'engagement que tu as toi-même préparé pour moi à Québec pour dimanche. Je crois que c'est ta volonté. Remarquez, hein? Je crois que c'est ta volonté. Ce voyage est inscrit dans ton plan. Quand il eut terminé, je m'apprêtais à prier, mais il mit sa main sur mon épaule et il me dit de ne pas le faire. Premièrement, ajouta-t-il, vous ne croyez pas que Dieu le fasse. Et secondement, moi, je crois qu'il l'a fait. Il n'est donc nullement nécessaire que vous priez pour la même chose. Je le regardai. Et George Muller me dit, « Capitaine, voici 57 ans que je connais le Seigneur, et pas un seul jour je n'ai manqué d'avoir un entretien avec le roi. Levez-vous, capitaine, ouvrez la porte, et vous verrez que le brouillard s'est dissipé. » Je me levai, sortis. Le brouillard avait disparu. Le dimanche après-midi, George Muller était à Québec. Ses yeux n'étaient pas fixés sur le torrent. Ses yeux étaient fixés sur le Dieu vivant. Et c'est ce qui a fait dire à Corrie ten Boom, cette femme de Dieu qui a tant souffert aux côtés de sa sœur Betsy dans ce camp de concentration de Ravensbrück. Cette femme de Dieu a dit « La foi est comme un radar dans le brouillard. Elle sait discerner de loin la réalité des choses là où normalement l'œil humain n'y voit rien. » Et Spurgeon, que nous avons déjà cité, disait « Une grande foi est capable de voir le soleil à minuit, de moissonner en plein hiver et de découvrir des rivières sur les sommets. » C'était la quatrième leçon du torrent de Kérit. La fidélité apprend à fixer le regard sur le Dieu vivant et non sur les torrents que nous scruterons longuement après-demain. Cinquième leçon du torrent de Kérit. Pour Élie, le torrent de Kérit dont le niveau baisse, c'est aussi l'épreuve de la faiblesse. L'épreuve de la faiblesse, l'épreuve du sentiment croissant d'impuissance. Et le torrent à sec, c'est la faiblesse, c'est le sentiment d'impuissance absolue. C'est-à-dire cette absence totale de pouvoir humain sur les circonstances. Voyez-vous, dans nos vies, il est des moments où nous nous rendons compte que nos propres forces, ma puissance physique, ma résistance nerveuse, mon excellente mémoire, mes capacités intellectuelles, mon savoir, mes ressources propres, mes diplômes, mon prestigieux CV, curriculum vitae, mon habileté manuelle, mes relations humaines, l'épaisseur de mon compte en banque et tant d'autres dimensions sont impuissants, insuffisants pour me sortir de ma situation difficile. Il ne me reste alors que la grâce du Dieu fidèle. Et voyez-vous, c'est une des raisons pour lesquelles le croyant qui vieillit est de plus en plus attaché à la grâce de Dieu. Sauf lorsqu'il cultive dans sa vieillesse une amertume parce qu'il a passé toute sa vie à critiquer, à médire, à calomnier, à vivre la mer. Alors bien sûr, ça transparaît à quelque part dans sa vieillesse, n'est-ce pas? Mais le disciple de Jésus-Christ qui vieillit avec le Seigneur, centré sur le Seigneur, voit bien entendu, avec la vieillesse, quantité de ses facultés, comme le dit justement Ecclésiaste au chapitre 12, s'étioler. Et plus ses capacités propres s'étiolent, plus il éprouve le besoin de dépendre de la grâce de Dieu. Plus on vieillit avec le Seigneur, plus la grâce de Dieu devient lumineuse. Pourquoi? Parce que tous les aspects de notre torrent qui est représenté par notre patrimoine personnel, n'est-ce pas, qui nous a tant servi dans le passé, disparaît progressivement avec le temps. Et c'est alors que la beauté du Seigneur peut se voir, les valeurs de l'invisible prennent alors une dimension tout à fait particulière. Quelqu'un dit très justement que la fin de l'homme est le commencement de Dieu. La faiblesse humaine fournit la meilleure toile de fond au déploiement de la puissance divine. L'épreuve du torrent de Kérit, c'est l'épreuve de la faiblesse. Et mes bien-aimés, nous n'aimons pas la faiblesse. Ce n'est pas dans la nature humaine d'aimer la faiblesse. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui qui hait la faiblesse et qui combat la faiblesse. Nous le redirons tout à l'heure dans notre conclusion. Un sage enseignant de la Bible de dire « Tôt ou tard, Dieu conduira les personnes autosuffisantes au point où elles n'auront plus d'autres ressources que lui. Plus de force. Plus de réponse, rien que lui. Sans l'aide de Dieu, elles sont perdues. » Et cet enseignant de raconter ensuite l'histoire d'un homme absolument désespéré qui va voir son pasteur et qui lui dit « Ma vie va vraiment mal. » À quel point ? Alors l'homme enfouit la tête dans ses mains et répond en gémissant « Oh, je vais vous dire à quel point. Tout ce qui me reste, c'est Dieu. » Alors, le visage du pasteur qui s'illumine, « Mais je suis heureux de pouvoir vous assurer qu'une personne qui n'a rien que Dieu a tout ce qu'il faut pour remporter une grande victoire. » La jeunesse est l'âge des illusions. On croit tellement fort à ce patrimoine que j'évoquais tout à l'heure. Et puis avec le temps qui passe, on se rend compte que ces torrents sont tellement éphémères. Et c'est comme cela qu'on apprend à trouver que Dieu est particulièrement précieux. Prenons quelques exemples tirés des Écritures d'abord. Nous l'avons évoqué, le premier, Jacob. Jacob le surdoué. Surdoué dans certains domaines, docteur S débrouille. Habile calculateur. Stratège remarquable. Il eût été ingénieur, aujourd'hui de toute évidence. Physiquement très fort de surcroît. Réussite matérielle incontestable. Jacob, littéralement celui qui attrape par le talon. Le terme hébreu signifie saisir par le talon, faire culbuter quelqu'un en l'attrapant par le talon, attaquer par derrière. Par surprise, tendre une embuscade, tromper. Au point d'ailleurs que le prophète Jérémie, dans Jérémie 17, verset 9, clamera fort et haut de la part de l'Éternel, le cœur est tortueux par-dessus tout, mais en hébreu, ce n'est pas ça. En hébreu, le cœur est Jacob par-dessus tout. Littéralement, Jacob veut dire tortueux. Le cœur est Jacob par-dessus tout. Nous en avons une grande démonstration dans Genèse 27, dans ce déguisement, n'est-ce pas, qui va tromper Isaac, le père, dont les papilles gustatives sont beaucoup plus développées que sa vision et son discernement spirituel. Avis à ceux qui aiment trop la bonne chair, au détriment de la chair d'en haut. Et voilà donc qu'il doit fuir. La haine de son frère Ésaü complètement meurtri. Pendant 20 ans, il sera au service de Laban. Et pendant 20 ans, Laban va être un miroir, voir de ses tromperies. Parce que quand il arrive au service de Laban, il découvre en Laban quelqu'un qui n'a pas un seul doctorat et se débrouille, il en a plusieurs. Il est nettement meilleur que lui encore dans ce domaine. Comme quoi, on trouve toujours plus fort que soi. Et pendant 20 ans, chaque fois qu'il regardera Laban, le trompeur, le calculateur, dans les yeux, il se verra. Et Dieu dira à son cœur, « Tu vois, Jacob, voilà ce que tu es. Tu souffres ? Eh bien, tu vois, c'est ainsi que tu as fait souffrir les tiens. » Et cela va donc durer 20 ans au service de Laban, ce miroir grossissant de son caractère. Et il sera trompé et exploité sans vergogne jusqu'à l'heure de la rupture. Et là, à l'heure de la rupture, lorsqu'il repart vers la terre de la promesse, il est angoissé. Parce qu'Ésaü est à ses trousses. Peur terrible, chapitre 32, verset 7. Angoisse terrifiante. Et alors, le vieux docteur Esdébrouille n'est pas encore tout à fait mort en lui. Il arrange une de ses stratégies fameuses, n'est-ce pas, de manière à aguicher Ésaü le haineux. Vous savez comment il crée plusieurs troupeaux qu'il va disperser sur des kilomètres pour donner une impression de puissance, d'aisance toute particulière, et puis il partage sa nombreuse famille, n'est-ce pas, en mettant ceux qu'il aime les plus près de lui, etc., etc. Merveilleuse stratégie. Et pourtant, il est follement faible et impuissant. Et pour la première fois, dans Genèse 32, 10, il prie d'une manière toute particulière en disant à l'Éternel, « Je suis trop petit. Je suis trop petit pour toute ta bienveillance. » Précepte, elle est là. Pour ton amour à mon égard. Pour ton chérissement. Je suis trop petit pour la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur. Seigneur, j'ai la frousse. J'ai peur. Et au fond de mon cœur, je me rends compte que tous mes calculs, tout ce que j'ai fait là, sur le terrain, oh, ça n'a pas grande valeur. Et vous connaissez la suite. Ce combat, au bord d'un torrent, curieux, au gué de Jabbok, torrent de Galaad. Jacob est dans la nuit. Il va toucher le fond. Le puissant, le capable, l'ingénieux, le débrouillard, l'autonome est frappé dans sa force. Il devient faible, fragile, vulnérable. Désormais, il va boiter. On le suivra à la trace, et on le reconnaîtra à une marche transformée par l'intervention de l'ange de l'Éternel. Mais il sera devenu fort de la bénédiction de Dieu. Genèse 32, 24 dit « Jacob demeura seul. » Seul. Et voyez-vous, Jacob a été seul comme Élie au bord de son torrent qui devenait de plus en plus silencieux. Et il est des silences qui pèsent quand on est seul. Mais ce sont des silences nécessaires. Et ce sont des solitudes nécessaires.
par lesquels nous devons, vous et moi, un jour ou l'autre passer. Si nous voulons que le fruit de l'esprit, dans cette dimension de la fidélité, puisse se développer en nous. Quelqu'un d'écrire, au moment où la solitude est la plus grande, nous devons nous tourner vers Dieu dans une dépendance éperdue et nous confier en lui si totalement que notre ruine psychologique serait certaine s'il manquait de nous répondre. C'est alors que nous arriverons à le connaître mieux. Alors notre caractère s'affermira dans la piété. Sa gloire surgit avec le plus d'éclat quand la nuit est la plus noire. C'est quand nous sommes le plus faibles que nous constatons pleinement que sa force nous suffit. Dans cette galerie de portraits, voici Moïse, acte 7, 22, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, puissant en parole et en œuvre, carte de visite et CV impressionnant. Et cet homme va devenir du jour au lendemain un obscur berger. Pour de longues années, il va apprendre la faiblesse pour devenir utile entre les mains de Dieu. Si bien qu'un jour, Dieu pourra dire de lui dans Nombre 12, 3 et 7, « Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. » Et Dieu dira comme en écho, « Mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. » Et je pense à cette déclaration presque en forme de boutade qui résume si bien la vie de Moïse. Moïse a passé 40 ans de sa vie à penser qu'il était quelqu'un. Puis 40 ans de sa vie à apprendre qu'il n'était rien. Et enfin, les dernières 40 années de son existence, 40 années, à découvrir que Dieu pouvait faire quelque chose avec rien. Nous aurions pu évoquer Gédéon. Gédéon qui, lorsqu'il est appelé à être juge et libérateur dans une portion du territoire d'Israël, dira « Mais ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je ne suis pas à la hauteur de la tâche. » Gédéon, l'homme qui a peur. Et toute l'histoire de Gédéon, dans sa plus grande partie, respire la peur de l'homme qui préfère obéir à la voix de l'Éternel de nuit plutôt que de jour, qui va s'entourer de toutes sortes de précautions, un chef sans expérience qui ne cachait pas sa peur. Et puis vous connaissez l'histoire de cette bataille précédée d'un tri. Le peuple est trop nombreux, dit l'Éternel, chapitre 7, verset 2 du livre des Juges. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré ». Et c'est ainsi que seuls 300 soldats sont choisis avec leurs trompettes, leurs cruches vides et leurs flambeaux contre 135 000 ennemis, aguerris de surcroît. Dans Hébreux 11, 32, Gédéon est cité au début d'une série de noms. Et ensuite, il est dit que certains d'entre eux ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. On peut traduire le grec de cette manière. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Curieux comme cela ressemble à l'histoire de Gédéon. La version d'Arbi aussi voudra coller à l'original et dira « De faibles qu'ils étaient, ils furent rendus vigoureux. Ils devinrent forts dans la bataille, firent ployer les armées des étrangers. » L'apôtre Paul. Carte de visite et CV prestigieux. Il suffit de lire Actes 22, 23, Galates 1, Philippiens chapitre 3. Que de titres prestigieux. Quelle ascendance extraordinaire. Et puis le voici, un jour, terrassé sur le chemin de Damas. Et il faut examiner les circonstances de sa conversion à Christ. Tout tourne autour de la fragilité, de la faiblesse, de la dépendance. Il tombe de sa monture, en tout cas il tombe à terre. Il devient aveugle. Il faut que ses proches le relèvent et le prennent par la main. Il devient d'un instant à l'autre, lui, le puissant, le tout-puissant, au sein des familles les plus illustres de Jérusalem. Il devient d'un moment à l'autre comme un petit enfant qui doit être conduit au cœur du vieux Damas, vers la rue droite que j'ai parcourue en long, en large et en travers, des jours durant, parce qu'elle existe toujours. Et elle est la plus grande des rues du vieux Damas. Et c'est très très intéressant. Et là aussi, il va être dépendant d'un certain Ananias, dépendant de lui pour retrouver la vue, être baptisé, dépendant ensuite des disciples de Jésus-Christ à Damas qui vont le mettre au fond d'un panier pour pouvoir le faire passer par-dessus les murailles. Il deviendra dépendant à Jérusalem, dépendant de Barnabas, le fils d'encouragement, qui va, dit le texte grec, pratiquement le prendre par la main pour le présenter aux autorités de l'église de Jérusalem afin qu'il soit bien accueilli. Et là, dès qu'il va témoigner, l'hostilité va se déchaîner contre lui et il sera encore dépendant de l'église de Jérusalem, des disciples qui vont le faire partir clandestinement vers sa ville d'origine, Tarse. Continuellement, à l'aube, dans les toutes premières années de Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul, tout est centré sur la nécessité de la dépendance et de la faiblesse, tant cet homme avait une carte d'identité, une carte de visite et un curriculum vitae absolument prestigieux. Et c'est cela qui le conduira plus tard à dire toutes ces choses. Tout ce prestige de mon passé, de mon ascendance, de ma culture, tout cela, je l'ai finalement considéré comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ, d'être saisi, d'être empoigné par lui et de pouvoir courir vers le but. Alors je comprends 1 Corinthiens chapitre 1er, n'est-ce pas, versets 26 à 29, qui nous montre combien l'échelle des valeurs de Paul a été profondément modifiée, combien sa mentalité a été bouleversée. 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Et ensuite, il donne un témoignage très personnel au début du chapitre 2 pour moi, frère. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mes amis, mais ce message était absolument scandaleux et révolutionnaire, parce qu'il s'adressait à la ville de Corinthe, à l'église de Corinthe, mais au travers de l'église de Corinthe, il s'adressait à cette cité célèbre pour son école philosophique qui a donné de remarquables philosophes, célèbre pour ses démonstrations orales fantastiques, parce que parler à la corinthienne, C'était parler d'un langage absolument sublime. L'art oratoire était développé à son extrême dans cette région de Corinthe. Et hélas, l'Église, eh bien, elle avait pris le pli de Corinthe. On avait la même échelle de valeur que dans la cité de Corinthe. Et l'apôtre Paul va mettre les pieds dans le plat, en leur disant, vous vous trompez de la première à la dernière ligne. Vos valeurs sont fausses, parce que vous les mettez complètement à l'envers. Mes amis, quel message. De Corinthiens, chapitre 12. Quel témoignage de cet homme de Dieu qui, dans les premiers versets, avec une sobriété, une humilité, qui le fait parler d'expériences absolument sublimes à la troisième personne du singulier, avec des précautions pour essayer de décrire sobrement ce qu'il a vécu. Mes amis, les témoignages de ceux qui se réclament de visions extraordinaires, de révélations sublimes, devraient être calqués sur 2 Corinthiens 12, parce que nous avons là le maître étalon d'un bon témoignage. Quelle sobriété! Et après avoir évoqué ce ravissement dans le troisième ciel, dans une présence particulièrement immédiate et sensible du Seigneur, au verset 7, il ajoute « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Dieu pour me souffleter. » Ah, merci. Un ange de Satan. Satan au service de Dieu. Souveraineté absolue du Dieu vivant, qui utilise la puissance des ténèbres pour accomplir ses desseins d'amour et de sauvegarde de son serviteur Paul. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois. 3 fois. Toujours le 3, n'est-ce pas? Il a prié, mais de tout son cœur. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages. Pardon? Ah, merci. C'était fait exprès. Hein? Mais oui, mais parce que c'est notre problème, n'est-ce pas? Je me plains ou je me plais. Nous avons le choix. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 7. Et puis nous arrivons, avant notre conclusion, au Seigneur Jésus. L'exemple suprême. L'incarnation du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Qui vient au monde au sein d'une toute petite nation occupée par le géant romain. À Bethléem et non dans la capitale. Dans une mangeoire et non dans le berceau d'un palais princier. Ses premiers adorateurs sont des bergers. Une classe sociale méprisée. Il est fils adoptif d'un modeste charpentier. Il habitera Nazareth, ville méprisée, parce que connue pour son immoralité. Nazareth, halte pour les caravanes, donc habitée de nombreuses maisons closes. La prostitution fleurit à Nazareth. Et puis, Nazareth n'est pas cité une seule fois dans l'Ancien Testament. Ce qui fera dire à un certain Nathanaël, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Lui qui habite dans la ville d'à côté. Son équipe, presque exclusivement composée de ces Galiléens méprisés dans la capitale. Il n'a pas suivi les écoles rabbiniques. Il aime fréquenter les petites gens, les mépriser par la HSI, Haute Société Israélienne. Il choisira d'entrer à Jérusalem sur un ânon et non sur un char. Il terminera crucifié entre deux brigands après qu'un criminel ait été relâché à sa place. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi le cinquième évangile, dans l'Ancien Testament, dira dans Ésaïe 53, 2, « Il s'est élevé devant l'Éternel comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Et Paul reprendra ce message. Dans Philippiens 2, 7, 8, il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus-Christ, le triomphe dans la faiblesse. Mais quel triomphe, puisque la plupart d'entre nous, nous l'avons rencontré et il nous a sauvés par sa puissance souveraine à cause de la croix. Terminons avec quelques interviews. Je voudrais être reporter ce soir et promener mon micro vers un certain nombre de personnes dont nous avons évoqué la plupart. Arthur Matthews, à nouveau, ce dernier missionnaire en Chine communiste. Voilà ce qu'il dit. Le Seigneur a besoin de nous montrer parfois non seulement la puissance de l'adversaire, mais aussi la faiblesse de nos cœurs. Les batailles ne sont pas gagnées par la force, par les actions d'éclat, mais par la faiblesse totalement faible, qui refuse de faire quoi que ce soit pour elle-même, mais se confie en la fidélité de Dieu, même quand cette confiance semble folie. Hudson Taylor. Nous pouvons adopter le langage de l'apôtre Paul et dire « Qui est suffisant pour ces choses ?» Notre faiblesse est à son comble. Nous devrions être accablés par l'immensité de la tâche qui est devant nous et le poids de la responsabilité qui est sur nous. Si ce n'était que notre faiblesse et notre incapacité même nous donnent un droit spécial à l'accomplissement de sa promesse qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Albert Simpson, que nous avons évoqué, fondateur de l'Alliance chrétienne missionnaire, décédé en 1919. Notre suffisance et notre entêtement à vouloir dépendre de nos propres forces constituent également des entraves à la foi. Par conséquent, avant que nous puissions avoir une confiance absolue en Dieu, il doit nous réduire à l'impuissance. Son intervention la plus puissante se produit généralement à l'heure de notre plus grande faiblesse. Georges Müller. Notre faiblesse donne l'occasion à la puissance du Seigneur Jésus-Christ de se manifester. Cet être béni ne nous laisse jamais, ne nous abandonne jamais. Plus notre faiblesse est grande, plus il est proche de nous pour manifester sa force. Plus nos besoins sont grands, plus il se manifeste comme notre ami. C'est ce que je vis depuis plus de 70 ans. Plus l'épreuve est grande, plus la difficulté est grande, plus l'aide du Seigneur est proche. Nous n'avons donc qu'à répandre nos cœurs devant lui, et l'aide viendra en son temps et à sa façon. Et puis, un homme de Dieu à qui nous n'avions pas encore tendu le micro. Il s'appelle Moody, prédicateur américain célèbre, né en 1837, mort en 1899. Fils de maçon, sans formation universitaire, manquant d'instruction, dont l'aspect physique était déplaisant, la voix haute, perchée et nasillarde. Son orthographe était déplorable et nous pourrions continuer la liste. Et Moody, que Dieu a utilisé de manière absolument extraordinaire, a écrit ceci en témoignage personnel. Quand Dieu veut déplacer une montagne, ce n'est pas à l'aide d'une barre de fer qu'il le fait, mais c'est en se servant d'un vermisseau. Le fait est que nous sommes trop forts. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il n'a pas envoyé une armée comme nous l'aurions nous jugé nécessaire. Une armée ou un orateur. Mais Dieu a envoyé un homme qui avait vécu 40 ans au désert et qui avait la langue embarrassée. C'est de faiblesse que Dieu a besoin. Nul n'est petit quand Dieu le prend en main. Revenons, en terminant, à ce prince des prédicateurs, Spurgeon, qui a raconté par le menu sa rencontre de Jésus-Christ, les circonstances de sa conversion à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. C'était en janvier 1850. Et notre ami, alors âgé de 15 ans, connut le grand tournant de sa vie, en se donnant à Jésus-Christ son Sauveur. Un dimanche matin, une tempête de neige obligea notre jeune homme qui se rendait à l'église à entrer dans une toute petite chapelle située dans une ruelle obscure. Une douzaine de personnes y étaient rassemblées. Il fit lui-même le récit des circonstances de sa conversion. Voici quelques lignes de son témoignage. Écoutez-le. Le prédicateur ne put venir ce matin-là, bloqué par la neige, je suppose. Finalement, un homme d'une grande maigreur, un cordonnier ou un tailleur, ou quelque chose de cette sorte, monta en chair pour prêcher. Il faut bien sûr que les prédicateurs soient instruits. Mais cet homme, lui, était vraiment primaire. Il ne pouvait pas sortir de son texte pour la simple raison qu'il n'avait pratiquement rien d'autre à dire. Le texte disait « Regardez à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Il ne prononçait même pas les mots correctement, mais cela n'avait pas d'importance. Il me semblait qu'il y avait dans ce texte une lueur d'espoir pour moi. Quand il eut réussi à délayer son discours pendant environ 10 minutes, il arriva au bout de ses ressources. Et alors, Spurgeon, d'expliquer que ce prédicateur de fortune l'interpella alors directement. Et quelques instants plus tard, les ténèbres du péché étaient chassées par le flot de lumière céleste qui inonda son cœur. Ainsi donc, tout respirait la faiblesse et l'impuissance humaine dans les circonstances qui présidèrent à la nouvelle naissance de cet évangéliste éminent, l'une des plus grandes figures de l'histoire de l'Église. Tempête de neige, ruelle obscure, petite chapelle, auditoire plus que modeste, prédicateur balbutiant s'était donné rendez-vous pour que Dieu puisse agir librement avec puissance dans le cœur en recherche d'un adolescent dont il voulait faire un instrument de très riche bénédiction pour beaucoup d'hommes. J'appelle ça la philosophie de la faiblesse. Une folie pour l'homme sans Christ. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les faibles sont marginalisés. Ils sont éliminés. L'avortement gagne du terrain, l'infanticide se développe, l'euthanasie avec elle, et tant d'autres fléaux, parce que l'on ne supporte plus d'avoir en face de soi le miroir de nos propres faiblesses. L'élitisme scolaire et universitaire, la course au diplôme, le culte de la puissance jouent un rôle tellement éminent dans notre monde d'aujourd'hui. Un homme de Dieu a écrit ceci, médecin de surcroît. Ce qui possède beauté, force, pouvoir, richesse, ne reflète pas aisément l'image de Dieu. À l'inverse, son esprit brille avec le plus d'éclat au travers de la fragilité du faible, de l'impuissance du pauvre, de la difformité du bossu. Même dans un corps brisé, l'image de Dieu peut apparaître plus clairement. Nous avons dit que la philosophie de la faiblesse était une folie pour l'homme sans Christ. Pardon de le dire, la philosophie de la faiblesse est devenue de plus en plus une folie dans l'Église. Dans l'Église. Et cela me trouble beaucoup. Quels sont ceux qui occupent le haut du pavé dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Quels sont ceux qui sont écoutés, entendus, mis au pinacle, sur un piédestal? Ce sont ceux qui ont un éminent curriculum vitae, qui ont suivi un parcours d'élite. Mais le faible, le petit, le pauvre, sont si facilement méprisés aujourd'hui. Ce qui a fait dire à un médecin qui s'est beaucoup occupé des faibles, et qui continue à le faire. La Bible défend une conception de l'homme radicalement différente de celle que nous sommes accoutumés à voir et qui correspond aux normes de ce monde. Jésus se tient du côté des faibles. Dieu se manifeste rarement par les puissants. Il agit de préférence par le canal de celui qui est conscient de sa faiblesse. Par la grâce de Dieu, la valeur de l'homme faible réside non dans ses capacités, mais dans sa foi. Alors il nous faut nous examiner les uns les autres, parce que nous sommes si souvent infectés par la philosophie de la puissance, beaucoup plus que nous le pensons. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie de la faiblesse qui nous vient de Dieu nous heurte de plein fouet. Quand elle vient à nous, nous ne la comprenons pas. Nous lui résistons, comme Jacob a lutté contre l'ange de l'Éternel, jusqu'à ce qu'il soit frappé à la hanche par celui qui n'avait qu'un seul objectif, pouvoir le bénir après l'avoir conduit dans la faiblesse. Alors si nous étions de ceux qui luttent, de ceux qui sont fiers de leur curriculum, de tous leurs attributs, eh bien, venons à la croix et disons au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à aimer ta faiblesse. Apprends-moi à vivre de ta puissance. Apprendre à être fidèle, c'est accepter l'épreuve de l'impuissance, lorsque tous nos moyens humains ne peuvent plus rien. La fin de l'homme est le commencement de Dieu. Nous voulons prier.